On va faire une lecture, s'il vous plaît, dans l'évangile de Marc. C'est le deuxième de nos quatre évangiles. Évangile de Marc, chapitre 2. Et nous lirons les 12 premiers versets. Évangile de Marc, donc, chapitre 2 et verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique que tes péchés sont pardonnés, ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Magnifique invention que le levier. Vous savez à quoi ça sert un levier, hein ? Grâce à un levier, avec une simple barre qui va pivoter sur un point d'appui, quelque chose, vous allez être capable de soulever des charges, peut-être même excessivement lourdes. Ce que vous n'arriveriez pas à faire avec vos deux bras, avec vos deux mains, ce serait totalement impossible. Et là, ça va devenir possible, tout simplement parce que vous avez actionné un levier. Je me dis qu'il y a combien, en fait, de charges lourdes dans nos vies que l'on n'arrive pas à bouger, que l'on aimerait bouger, déplacer, on n'y arrive pas. On parle aujourd'hui communément du poids de la souffrance. C'est difficilement quantifiable, mais voilà, ça peut vous éreinter, ça peut vous mettre à terre, ça peut vous empêcher de vouloir bouger. Le poids de la culpabilité. Les personnes ont eu du mal à vivre avec un souvenir, un vieux souvenir, une expérience, quelque chose qui les a traumatisés, et pas plus ou moins réellement traumatisés. Ils vivent avec ce poids sur leur cœur et ça les accable. Ça les accable, littéralement, ils sont sous le poids et ils n'arrivent pas à se redresser. On pourrait parler de la vie pas forcément toujours réussie, quelquefois gâchée malheureusement, une vie d'échec, une vie où on a côtoyé que l'échec. Il m'est arrivé de rencontrer quelques personnes comme cela qui avaient l'impression, il me semble que c'est qu'une impression, hein, elles avaient l'impression qu'elles n'avaient jamais rien réussi de leur vie. C'est fou ça, hein ? Comme si à chaque fois, tout était raté. Je me souviens, il y a de nombreuses années de cela, de cette personne qui, rien à faire, n'arrivait pas à voir les bonnes choses qu'elle avait vécues. Elles avaient disparu. Par contre, toutes les mauvaises, elle s'en souvenait. Elle aurait pu vous dire le jour, elle aurait pu vous dire l'heure. C'est impressionnant, le poids de l'échec, le poids qu'on traîne et qu'on a du mal à déplacer. Alors, le poids du péché, pour finir, c'est peut-être celui qui est le plus invisible, mais qui est celui-ci autant réel que le reste, et certainement le plus lourd. Difficile de déplacer ce poids, difficile de le mettre ailleurs, il est devant nous, il est devant nos yeux, et on n'arrive pas forcément à s'en débarrasser. Ce jour-là, on a lu qu'à Capernaum, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Un homme infirme, qui finalement ne risquait pas de pouvoir se déplacer tout seul, un homme infirme a été soulevé par quatre de ses amis et transporté parce qu'il a fallu le prendre de là où il était, l'amener à la maison où était Jésus. Et comme on ne pouvait pas rentrer dans la maison, il a fallu prendre l'échelle, monter sur le toit, pour finalement amener cet infirme devant Jésus. Donc on a actionné plusieurs leviers pour en arriver là, parce qu'il est évident que cet homme tout seul ne risquait pas de le faire. Il ne suffit pas d'avoir de la volonté, il suffit quelquefois, ça ne suffit pas, de simplement le désirer. Sa seule volonté ne pouvait pas le faire, mais ce jour-là, quatre leviers, à l'image de ces quatre hommes, quatre leviers ont été nécessaires. Je les ai nommés, pour commencer, le courage, ensuite la vérité, troisièmement l'humilité, quatrièmement la foi. Alors on va décortiquer un petit peu ça, autant qu'on le peut, assez succinctement. Le courage. Je pense que pour aller trouver Jésus, il fallait un certain courage quand même. Il fallait un certain courage, oser y aller. C'était peut-être pas évident, d'autant plus qu'il y avait du monde. Je me souviens de ce jeune qui rendait témoignage il y a pas mal d'années de cela. Un dimanche ou un samedi peut-être, samedi, il se baladait à Saint-Tropez. Et tout à coup, un attroupement, c'était l'été, hein, un attroupement, et il s'interroge, etc. Et il apprend que Johnny Hallyday est arrivé dans le café, certainement un endroit où ils avaient l'habitude d'aller, quoi. Alors tout de suite, il y avait un monde fou. Et lui, sa seule préoccupation, parce que tout le monde voulait le voir, à l'époque, il n'y avait pas autant de portables, appareils photo tout au plus. Donc on ne faisait pas de selfie, mais au moins, on aurait bien voulu le prendre en photo ou un autographe. Quelqu'un aurait même accepté, je ne sais pas, qu'il lui mette son nom sur le bras ou sur la tête, allez savoir. Enfin, je veux un autographe. Donc il y avait un monde fou. Et lui, quand il a su que Johnny était là, il s'est dit, mais moi, j'aimerais pouvoir l'approcher pour lui donner une Bible. Il n'y a que ça qui lui est venu à l'esprit. C'est une bonne idée quand même, hein. Sauf que, vu les gorilles, au sens figuré, les malabars qui étaient devant, les gardes du corps, et vu le monde qu'il y avait, le poids, il était de taille. Oser et réussir à atteindre Jésus, il fallait un sacré courage. Il fallait peut-être plus que du courage, il fallait autre chose, et de la volonté, peut-être même du temps, pour y arriver. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il a commencé à essayer de s'approcher, tout ça, il a bougé un peu des coudes. Croyez-le ou pas, il s'est trouvé devant Johnny. C'est pas beau, ça? Alors, il avait pris une Bible avec lui, et il lui a offert la Bible. Tenez, monsieur Johnny, ça fait drôle, hein? Je me permets de vous offrir une Bible, peut-être que vous en avez pas. Il a remercié, il a dit, ouais, merci, c'est gentil, hop, il l'a pris. Et lui, il est reparti tout content, sans autographe. Mais qu'est-ce qu'il était content? Faut du courage, quelquefois, pour se dire que je vais aller m'expliquer devant Dieu. Je vais aller lui dire ce que je vis, ce que je ressens, mon bien-être et mon mal-être. Je vais aller lui apporter cela. Pas toujours évident. Quelquefois, on peut se poser la question, d'ailleurs, pourquoi est-ce si difficile de rencontrer Dieu? Il y a tellement de besoins. Qui n'a pas de besoin cet après-midi? Moi, j'en ai, mais c'est pour... Si vous n'en avez pas, vous levez la main. Qui n'a pas de besoin? Ce serait formidable, hein? Tout le monde a des besoins, tout le monde a des difficultés. Pourquoi tant d'obstacles, quelquefois, pour aller rencontrer Jésus? Un homme est malade, un homme est infirme. Après tout, j'ai envie de dire que la foi, c'est pour lui, Dieu, c'est pour lui, hein? Il est malade. Sauf que quand ils ont décidé d'aller vers Jésus, c'était impossible, parce qu'il y avait trop de monde, il y avait trop d'obstacles. Impossible d'atteindre Jésus, c'était pas faisable. Et personne n'aurait laissé sa place, forcément. Chacun gardait sa place et ils auraient peut-être attendu longtemps. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit un monde bizarre quand même. On vit un monde bizarre. Il y a des gens qui sont capables de dormir sur le trottoir devant la porte d'un magasin pour être dans les premiers le lendemain quand le magasin va ouvrir. Ouais. Tout ça pour acheter un téléphone, alors qu'ils en ont déjà un dans la poche. On est dans un monde bizarre, vous ne trouvez pas? C'est quand même particulier, quoi. Les gens vivent comme ça aujourd'hui. Certains, pour aller, je ne sais pas, écouter un tour de chant ou quelque chose comme ça, sont capables de faire 500 km, peut-être même davantage. Et ils sont capables maintenant, sans aucun doute, de dormir sur place. Quand je vous parle de cette frénésie à acheter du high-tech, je crois que c'est au Japon, quelqu'un a dormi une semaine devant le magasin. Une semaine, il a planté la tente sur le trottoir. Je ne sais pas, il y a des choses qui nous dépassent quand même. Le fait est que l'idée, c'était de pouvoir être là dans les premiers. Et là, ça paraît pas normal, parce que chacun, personne ne laissera sa place. Ça paraît difficile d'atteindre Jésus. Je me dis que quelquefois, c'est peut-être aussi un petit peu l'affaire du diable de s'opposer, de nous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ouais. Je me souviens de cette personne que l'on avait rencontrée et qui avait dit « Ah, je viendrai à l'église la prochaine fois que vous avez un moment, dites-le moi. » Et on avait donné les heures, les dates. Et la personne n'est pas venue. On a attendu, on ne l'a pas vue. Et puis une semaine, 15 jours, et puis finalement on l'a retrouvée, pas à l'église, mais à l'extérieur. Et on lui a reparlé, et elle dit « Mais vous savez pas ce qui m'est arrivé ?» Et le jour même, alors qu'elle devait venir, elle a eu un accident de voiture. Comment vous prévoyez ça, vous ? Elle avait quasiment jamais eu d'accident, juste là. Bon, sans trop de gravité, mais quand même, ça a suffi pour qu'elle puisse pas venir, et puis après, voilà, on reprend le cours de la vie. Hein. Il y a des moments et des occasions, certainement, qu'il ne faut pas rater. Alors, ces gens-là, ces quatre hommes, ont eu forcément du courage. Et quand ils ont vu que, impossible, on n'entrera pas dans la maison où est Jésus, c'est totalement impossible, il y avait du monde dedans, il y avait du monde dehors. Alors, ils ont été ingénieux, ils ont été malins, et ils avaient le droit, finalement, pourquoi pas de l'être. Il y avait une part à prendre, en fait, mais il y avait quand même une part à aller chercher. Il suffisait de la prendre, mais il fallait aller la prendre là où elle était. Alors ils ont dit, puisque Jésus est dans la maison, puisque Jésus ne peut pas venir à nous, nous on va aller vers lui. Et jusqu'au bout. Alors ils sont montés sur le toit, ils ont débarrassé de quoi faire une ouverture suffisamment large pour que l'espèce de lit passe. Et puis ils ont descendu l'infirme devant Jésus. Je trouve qu'il faut de l'application, certainement pas mal d'efforts. Il faut quand même un peu de résistance. Hein. Imaginez, vous tenez quelqu'un à bout de bras, il ne faut pas le lâcher. Hein. Et il faut certainement de la persévérance pour arriver à cela. Je lisais dans un magazine, deux jeunes gens américains, deux Américains, ont fait un exploit. Alors quelque part aux États-Unis, là où il y a des montagnes, pas vers les Rocheuses, mais quelque part par là, ils ont décidé d'affronter un piton rocheux qui fait 900 et quelques mètres. C'est une paroi verticale, totalement verticale. Totalement vertical. Personne ne l'a jamais prise, cette voie-là. Alors on essaye de grimper, des alpinistes sont régulièrement sur le coup, ils essayent de grimper, mais jamais personne n'a eu l'idée de la prendre de face comme ça, et ils l'ont fait simplement, ce qu'on appellerait de la varappe, hein, avec leurs doigts. Alors ils se sont de temps en temps sécurisés, évidemment, parce qu'il y a du vide juste. Il y avait à peine, on voit quelques photos, il y avait à peine des aspérités de quelques centimètres. Et il fallait, comme c'était tout nouveau, une paroi nouvelle, il fallait essayer de se frayer la voie. Vous savez combien de temps ils ont mis ? Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je crois qu'ils ont mis 17 jours. C'est-à-dire qu'ils ont dormi sur la paroi. Il a fallu inventer le système pour dormir collé à la paroi et pour pouvoir aller jusqu'en haut. Alors, l'un a été distancé par rapport à un autre. Quelqu'un a eu tellement mal au doigt à un moment donné qu'il a dû rester des heures, quasiment plus de 24 heures sans bouger à l'endroit où il était, parce que c'était totalement impossible. Et ils sont arrivés tout en haut. Mais quel effort surhumain, faire quelque chose comme ça. C'est hallucinant. Et l'un des deux, là, une trentaine d'années, et l'autre, une vingtaine d'années. L'un des deux a fait de l'alpinisme avec son père depuis qu'il était tout petit. Et cet homme disait, mais depuis que j'ai 7 ans, je rêve d'affronter cette montagne. Donc il s'y est préparé, une dizaine d'années de préparation pour arriver là. Je me dis qu'ici-bas, il y a des personnes qui sont capables de déployer, mais alors, une énergie incroyable pour arriver à leur but, pour arriver à leur fin. Ils sont capables de faire des choses incroyables pour atteindre le but. Eh bien, ça semblait compliqué d'atteindre Jésus. Mais ils ont réussi à l'atteindre. Ça a demandé un peu d'effort, ça a demandé un peu d'imagination, ça a demandé certainement un peu de persévérance. Il a fallu être costaud et résistant, mais ça a fonctionné. Un des premiers leviers qui vous permettra d'approcher Dieu, c'est celui-ci, le courage d'aller vers lui. Le courage de dire, quoi qu'il m'en coûte, je vais aller vers lui, il faut que je le trouve, il faut que je l'atteigne, il faut que je l'approche, c'est une nécessité. Le deuxième levier dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la vérité. Qui s'est trouvé être, à votre avis, le plus mal à l'aise? Essayez d'imaginer la scène. Est-ce que c'est Jésus? Parce qu'au bout d'un moment, ça a dû faire de la poussière à l'intérieur quand on a commencé à débarrasser ses branches. Est-ce que, et que la lumière a commencé à rentrer par le toit, est-ce que c'est Jésus qui a été le plus embarrassé en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Est-ce que c'est dans cette pièce, il y avait des chefs religieux, il y avait des scribes, des pharisiens, etc. Est-ce que c'est ces gens-là qui se sont plaints en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» On est en pleine réunion, on est en discussion théologique. C'est du sérieux là, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est les quatre là-haut? Parce que tout le monde a commencé à les regarder. Vous n'avez pas l'impression de déranger là un peu? Est-ce que c'est les quatre qui ont dû dire, oh, il vaut mieux pas que je regarde? Et je... Tiens, ma cousine ou mon cousin, allez savoir. Est-ce que c'est eux qui étaient les plus mal à l'aise? Moi, je crois que c'est l'infirme le plus mal à l'aise. Lui, il a dû se dire « Mamma mia, je ne peux même pas m'échapper. » Parce que c'est lui qui est le plus exposé. C'est lui qui est le plus exposé, à vrai dire. Parce que tout le monde verra, en détail s'il le faut, son infirmité, peut-être même déformation de son corps, allez savoir, toujours est-il que c'est un infirme, c'est un pauvre infirme qui est exposé aux yeux de tous. D'ailleurs, il y en a qui ont jasé, certains n'étaient pas contents. Vous imaginez, c'est encore sur lui que ça va tomber, quoi. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui qu'on en est là. C'est à cause de lui que ça ne se passe pas comme on l'imaginait. C'est à cause de lui que la réunion est perturbée et qu'on va perdre le fil de l'enseignement. C'est à cause de lui. Eh, lui, oui. Mais tant pis. De toute façon, la vérité, elle est là. Hein. C'est un infirme. Il ne peut rien faire, il ne peut pas s'échapper, il peut rien cacher à la limite. Mais c'est quand même lui le plus à plaindre, parce qu'il est montré, il est révélé à tout le monde, mais pauvre, pauvre personne. Aujourd'hui, là encore, vu notre société, c'est un petit peu étrange, mais aujourd'hui, les gens aiment s'exposer hein, par des émissions, télé, etc. Les gens se montrent même à nu maintenant. Les hommes se montrent, voilà, on s'expose, et les gens sont presque fiers de cela. Mais c'est humiliant à l'extrême. Je pense que psychologiquement, ça fait mal quand même. Mais hein. Voilà, l'exposition médiatique, quelquefois, c'est insupportable. Mais je vais vous dire une chose. S'il n'y a pas de vérité dans toutes les actions que l'on fait, aussi courageuses soient-elles, c'est du vent. S'il n'y a pas de vérité dans ce que je fais, tout ce que je fais, coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien. Je peux, d'ailleurs, 1 Corinthiens chapitre 13 parlera de l'amour, mais qui dit amour parle de vérité aussi. Et l'apôtre Paul dira, je pourrais même sacrifier ma vie. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je pourrais être le plus intelligent de la terre. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et quelque part, pour toucher la vérité, celui qui est la vérité, ben, il faut y aller avec un cœur sincère. Hein. Si on y va avec un cœur tordu et faux, si on y va en cachant la moitié des réalités de notre vie, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Cet homme, il est tout devant, il n'y a pas de façade, il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas d'hypocrisie dans ce geste. Il y a juste un geste simple, mais tellement vrai. Je crois que Dieu entend et Dieu accueille le discours qui est vrai. C'est sûr que Dieu l'accueille. Dieu accepte tout. Écoutez bien, Dieu accepte, est capable de tout accepter d'un cœur qui est sincère. Autant il acceptera rien d'un cœur qui est faux, autant il acceptera tout d'un cœur qui est vrai. Vous pouvez être le pire, la pire, vous pouvez être, je ne sais pas, mal considéré et pas forcément mal jugé, mais en tous les cas, vous pouvez sentir en vous-même la saleté, l'horreur de tout ce que vous avez vécu, fait, etc. Vous apportez tout cela à Dieu, il acceptera tout. Si votre démarche est sincère, si votre démarche est vraie, si c'est vrai, Dieu accepte. Si c'est faux, ça ne marche pas. Et il me semble que ça fait partie de la vérité. La vérité est capable d'accepter le jugement. Quand cet homme s'est trouvé devant Jésus, Jésus dit à cet homme, et Jésus dit à tous ceux qui sont là, peut-être même aux quatre qui sont là-haut sur le toit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Cet homme est infirme. Ses péchés, à la limite, ce n'est pas la question, on n'en est pas là. On n'est pas dans un débat sur la destinée de l'âme. Là, on est sur le corps. On m'a amené jusqu'à toi parce qu'on pense que tu peux guérir. Vu qu'on n'arrivait pas à t'atteindre, on est monté sur le toit, on me descend comme cela. Mais c'est dans un seul but, que je reparte sur mes deux jambes, que je reparte guéri. Et toi, tu me parles de mes péchés. Quel décalage. Mais dites-moi, si vous n'acceptez pas ce langage qui est vrai, le langage de la vérité, qui peut apporter un jugement quand même ? Parce que quelque part, Jésus est en train de dire à cet homme, « Tes péchés te condamnent, mais je veux pardonner tes péchés. Tes péchés t'amènent à la mort, mais je veux pardonner tes péchés. » Et si finalement Dieu avait quelque chose à vous dire cet après-midi, il vous dirait la même chose. Si tu continues à vivre comme tu fais, tu vas en enfer. Et ça, il faut l'accepter, il faut l'entendre. Si tu continues à vivre de cette manière-là, il n'y aura pas de salut pour toi. Tu ne t'en sortiras jamais. Tu ne verras jamais le soleil. Ta vie sera toujours ratée. Tu n'y arriveras jamais. Accepte-le. Accepte-le. Il n'y a rien de pire que d'accepter la vérité quand elle nous blesse. On la veut pas. On la rejette. On la refuse. C'est inacceptable. On peut pas entendre quelque chose comme cela. On préfère aller voir le voyant, le médium, la diseuse de bonne aventure, qui va vous dire « Bon, vous passez par une période difficile, mais je sens que ça va aller mieux. » Là, on est prêt à l'entendre. Vous avez des difficultés, mais vous allez rencontrer quelqu'un, il va vous faire du bien. Et là, on est prêt à l'entendre. Par contre, que quelqu'un vous dise « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, et si tu ne fais pas la paix, tu vas en enfer. » Ben, c'est plus dur à avaler, mais c'est aussi vrai. Ça, c'est la vérité. Cet homme se trouve devant Jésus, pauvre infirme, et on le juge encore, comme un infirme, mais comme un pécheur. Ça ne suffit pas qu'il soit infirme ? Faut-il lui rappeler qu'il est pécheur aussi ? Hé, l'infirme, tu sais que tu vas en enfer parce que tu es pécheur ? On aurait pu lui dire ça. Je ne sais pas si ça l'a laissé de marbre, si... Certains disent, oh, c'est pas grave, de toute façon, il était déjà infirme. Oui, mais bon, si quelqu'un sort à peine la tête de l'eau, vous n'allez pas l'enfoncer quand même. Vous n'allez pas la lui mettre encore plus sous l'eau. Et là, c'est assez étonnant, mais dites-vous bien une chose, s'il y a de la vérité dans vos actions, j'insiste, hein, s'il y a de la vérité dans vos actions, Dieu vous écoutera, Dieu vous entendra et Dieu vous bénira. Troisième levier, qu'il faut utiliser, c'est celui qui permettra de soulever le poids du péché, c'est l'humilité. Hein. Parce que quelqu'un vienne vous voir et vous dise « Hey, tu sais que tu es nul et que tu vas aller en enfer », vous devriez lui dire merci, parce qu'il vous dit une vérité. Certains sont capables de dire « Bon, tu peux me dire que je vais en enfer, parce qu'après tout ça paraît un peu loin, mais tu ne me dis pas que je suis nul. Hein. » Mais la vérité, c'est quand même ça. Hein. Si Dieu nous regarde, il nous voit sales, souillés, ratés. Combien de fois on s'est planté, combien de fois on est passé à côté, combien de fois on a fait pleurer les autres, combien de fois on a été méchant, combien de fois on a été dur, combien de fois ? Mais on ne s'en souvient pas. Ce n'est pas des dizaines de fois, c'est certainement des milliers de fois. Ça va tellement vite, ça va tellement vite. On a un cerveau qui marche bien, ça va tellement vite. Eh bien, c'est pour des gens comme nous, comme vous, comme moi, et comme cet homme, que Jésus est venu. On a l'impression que Jésus semble contourner le problème. On lui amène un infirme et lui parle des péchés. C'est comme si, hop, il biaisait, il passait à côté. Je me suis posé la question, est-ce qu'il contourne le problème ou l'obstacle ? Pas pareil, hein ? Est-ce qu'il contourne le problème ou l'obstacle ? Et à prime abord, on aurait pu s'arrêter à l'infirmité et c'eût été un obstacle. Parce que si on n'est pas capable de voir que derrière l'infirmité, il y a quand même une infirmité spirituelle, une mort spirituelle qui attend ce pauvre malheureux, on serait passé à côté. Ça ne suffit pas de lui dire « Rentre chez toi, Dieu te guérit ». si vous ne lui pardonnez pas ses péchés, demain il fait une crise cardiaque, il est quand même en enfer. C'est un homme bien important qui s'en va en enfer. Le plus important, il était là. On a imaginé que toutes les difficultés de la vie étaient nos problèmes. Et on a pensé que finalement, il fallait que ça aille mieux dans ce domaine-là et que tout s'arrangerait par la suite. Combien de fois ai-je entendu ? Le jour où j'irai mieux, je viendrai vous voir. Sous-entendu, je viendrai à l'église. Ben, on a attendu longtemps. Hein, et on attend toujours. Parce que ça ne va jamais mieux. C'est dommage, hein, évidemment. Mais je préférerais que quelqu'un dise... c'est parce que je vais vraiment mal que j'ai besoin de venir. Là, on ne contournerait pas le problème. Là, on affronterait l'obstacle. Et on comprendrait que l'obstacle... Ce qui vous empêche d'aller vers Dieu, c'est justement tout ce qui ne va pas. Alors, ne le voyez pas simplement comme un problème à régler. Après, vous serez beaucoup plus à l'aise pour aller vers Dieu. Si vous ne laissez pas Dieu s'en charger, vous n'y arriverez pas. Levier, l'humilité. L'humilité. Quelle humilité, cet homme, d'écouter Jésus lui dire « Tes péchés sont pardonnés » sans rien dire. Il ne dit pas un mot. Il ne dit rien. Il ne dit pas « Excuse-moi, ce n'est pas vraiment ça le problème. Je ne suis pas venu pour ça. » Il ne dit rien. Il ne dit rien. Mais il accepte. Alors évidemment, c'était aussi pour faire parler les autres. Hein, parce que beaucoup se sont plaints en disant « Mais il n'a pas le droit de pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. » Et Jésus a prouvé par là qui peut le plus, peut le moins. Si je peux pardonner les péchés, je peux largement guérir un corps infirme. Ce n'est pas un problème. Nous, on voit les choses dans l'autre sens. Si Dieu est capable de guérir un corps infirme, alors c'est sûr qu'il doit être capable de pardonner les péchés. Non. Qui peut le plus ? Et Jésus pouvait tout faire, évidemment. Il pouvait le bénir. Que demande-t-on à Dieu, souvent ? Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu ? La paix, la tranquillité, le repos ? Un peu plus d'argent, un travail un peu plus serein, une vie familiale un peu moins agitée, un peu moins tourmentée, je ne sais pas, une bonne santé. Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu ? Peut-être que vous avez demandé tout ça à la fois. Est-ce que vous avez oublié que votre âme s'en va en enfer ? Peut-être bien, parce qu'on n'en parle pas tous les jours aux actualités, hein. On n'en parle pas tous les jours dans les journaux, mais le plus important c'est ça, vous êtes perdu, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous allez en enfer. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que l'on demande à Dieu ? Qu'est-ce qu'on livre de nous à Dieu ? Qu'est-ce qu'on lui livre de nos vies ? Pas toujours l'essentiel. Vous savez, Dieu ne sera jamais une machine. Une machine où on met un euro, on tire et on a une bénédiction. Ça ne marche pas comme ça. Ou on met un euro, ou on met un cierge, ce que vous voulez. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions, de bienfaits, de grâces. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ça la relation avec Dieu, bien évidemment. Jésus savait exactement que le vrai problème, il n'était pas dehors, il était dedans. Et le vrai problème, ce n'était pas l'infirmité de cet homme, c'était à l'intérieur de ce corps infirme. C'était là qu'était le problème. C'était un grand corps malade, mais à l'intérieur aussi. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dedans. C'était à l'intérieur qu'il fallait que la guérison s'opère. En fait, je ne m'y connais pas tellement en jardin. Ne me confiez pas vos plantes vertes. Vous en pâtirez certainement. Mais on se rend compte quand même que si il y a des mauvaises herbes qui poussent, il ne suffit pas de passer la tondeuse. Hein. Visiblement, il faut les arracher. Hein. Si vous n'arrachez pas la racine, ça va repousser. Hein. Pas comme ça que ça marche ? Ben oui. Ben le péché, c'est pareil. Hein. Si vous n'enlevez pas la racine, coupez simplement les bords qui dépassent. Puis vous ne tarderez pas à voir que ça repousse. Et ça repousse vite même. Quelquefois, vous dites, c'est pas possible, c'est déjà aussi grand. Eh oui, ça repousse très vite. Hein. Arrachez la racine. En fait, c'est là qu'il faut aller. Le problème, il n'est pas dehors, il est dedans. Le problème, il n'est pas... chez les autres, il est chez vous. Et le problème, il n'est pas sur vous, il est au-dedans de vous. Il faut aller jusqu'à la racine. Ça sous-entend beaucoup d'humilité, mais c'est certainement la méthode la plus efficace. Et je termine avec la notion de la foi. Parce que l'infirme écoute tout ce qui est dit à ce moment-là. Et à un moment donné, Jésus dit « Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. » Et là, il se tourne vers le paralytique. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et la Bible dit, « Et à l'instant, il s'est levé. » Gloire à Dieu. À l'instant, il s'est levé. Il n'a pas attendu 5 minutes, il n'a pas attendu un quart d'heure, il n'a pas attendu qu'on le ramène à la maison, il n'a pas espéré que sentir quelque chose. Il entend une parole, « Allez, lève-toi !» Eh bien, il se lève. Mais comment il a fait? Je me pose encore la question. Comment il a fait? Vous pouvez pas me montrer sur un dessin comment on fait pour marcher? Vous n'avez pas un livre, un mode d'emploi? Je voudrais savoir comment marcher. Une parole qui sort de la bouche de Dieu, qui sort de la bouche du Fils de Dieu, a tellement de puissance et d'autorité que ça balaye l'incrédulité, que ça balaye les doutes. C'est comme un vent, comme un souffle impétueux là, qui balaye toutes les inquiétudes. Et immédiatement, cet homme, ben, il est debout. Il est debout. Je me dis qu'on a là un homme qui manifeste la foi. Il écoute, il accepte et il croit. Et dès que la parole de guérison est proclamée, ben il s'y attache et il y croit. Et le voilà debout et le voilà prêt à rentrer chez lui. La Bible dit que la foi peut déplacer les montagnes. Vous le croyez cela? Je crois cet après-midi que la foi peut déplacer la montagne qui est devant vous. Mais pour qu'elle se déplace, il faudra certainement utiliser des leviers. Je vous en ai donné 4. Je vous ai parlé du courage, je vous ai parlé de la vérité, je vous ai parlé de l'humilité, on vient de parler de la foi. On pourrait certainement en utiliser d'autres. Mais ceux-ci sont incontournables. Vous ne pouvez pas faire sans. Si vous ne les mettez pas ensemble, si vous ne les utilisez pas, l'obstacle ne bougera pas. Il est trop lourd, vous n'y arriverez pas. Vous en avez besoin, c'est une nécessité. La foi est capable de s'emparer des promesses et la foi est capable de donner la vie. Cet homme a été totalement guéri. D'ailleurs, ça a tellement surpris tout le monde que beaucoup étaient d'accord pour dire « Ah, ça, on ne l'a jamais vu. Hein. On n'a jamais rien vu de pareil. C'est incroyable ce qui vient de se produire. On n'a jamais rien vu comme cela. Jamais que vous puissiez rentrer à la maison en disant aujourd'hui « J'ai jamais vécu ça. Jamais vécu ce que je viens de vivre. » Il s'est passé quelque chose en moi, il s'est passé quelque chose dans mon âme, il s'est passé quelque chose dans mon être, il s'est passé quelque chose physiquement. Je sens que Dieu m'a visité. C'est ça que Dieu veut faire maintenant. Est-ce que vous le croyez? Alors on va prier ensemble. Vous voulez qu'on s'incline et on demande à Dieu sa grâce? Oh, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions pour ces bons moments. Nous te remercions pour ta bienveillance, ta grâce, ton secours. La vérité est que tu ne changes pas, la vérité est que tu es parfait, la vérité est que tu es le libérateur et que tu es celui qui transforme les cœurs et les vies. Merci pour cette possibilité d'aller vers toi. Merci pour cette simplicité avec laquelle nous pouvons le faire. Et merci aussi parce que tu écoutes le cri de nos âmes, le cri de nos cœurs. Je pense à ceux qui, cet après-midi, dans ce lieu, crient à toi de tout leur être, de toute leur âme, avec un cœur totalement ouvert. Je veux que tu fasses un miracle dans leur vie. Je veux que tu étendes ta main dans leur être maintenant. Je veux que tu les visites, que tu leur accordes ton secours, que tu étendes ta main sur leur vie, que tu les accompagnes, ô Dieu, que tu les accompagnes et que tu leur fasses grand bien. Étends ta main, s'il te plaît. Accorde-leur ta bénédiction. Je veux compter sur toi. Je veux croire que tu vas agir, que le temps des miracles n'est pas passé. Peut-être que quelqu'un est malade physiquement, quelque chose qui ne se voit pas et qui se dissimule assez facilement et qui est capable de passer totalement inaperçu, sauf que quand la personne se retrouve seule face à elle-même, alors le mal reprend le dessus et c'est tellement douloureux. Je voudrais que tu viennes guérir cette personne-là maintenant. Je voudrais qu'il y ait une part profonde de vérité, d'authenticité, d'humilité, de courage et de foi pour que cette personne t'expose son mal, son malheur, et que tu viennes la guérir. Je pense à d'autres qui seraient là avec un simple soupir, que leur vie soit plus belle, que leur vie soit meilleure, que leur vie passe vraiment par des temps de quiétude, de tranquillité, et que la tourmente et que la tempête s'arrêtent. Je prie que tu les bénisses, je prie que tu leur fasses du bien. Plusieurs sont dans cet état-là, dans ces situations mêmes. Je veux croire que tu vas les bénir.